s'agit. Alors, Taout, page 45, même hé.
Même hé, 45.
Page mé. Ou ma.
Ça
a l'air ? Alors, allons-y. Taout Gedola. Taout Gedola, hi biyad otam she'inam margishim et ha'achdut ha'sgulit she'be'Israël. וחפצים הם בדמיונם להשוות את עניין האלוהי הזה המיוחד באופי הישראלי לעניין כל תוכן של עם ולשון אשר בכל משפחות האדמה ומזה בא הרצון לפלג את העניין הלאומי ואת העניין הדתי לשתי פלוגות ושתיהם יחד נחלו בזה שקר כי כל ענייני המחשבה ההרגשה והאידיאליות שעניינו מוצאים באומה הישראלית חטיבה אחת בלתי מחולקת היא והכל ביחד עושה הוא את צורתו המיוחדה שלום ובוקר טוב donc c'était une phrase cookienne et comme à son accoutumée le rapouk a oublié la ponctuation. Et il s'est rappelé au bout de cette ligne qu'il fallait mettre un point. C'est vrai. Alors, venez, on s'installe, parce que ici, le Rav Kook, plus tard dans le livre, il y a un texte qui s'appelle Les Ma'alach Ha'ideot Be'Israël. Ok, c'est un autre texte qui est plus loin dans le livre. Et pour comprendre de quoi ici le Rav Kook va parler, il faut simplement expliquer cela. Le Rav Kook va nous expliquer qu'il y a dans le monde deux grands idéaux. Il y a l'idéal divin, ce qu'il va appeler « Idea a Elohit », et il y a l'idéal national, « Idea a Leumit ». Maintenant, on ne parle pas du peuple juif. De manière générale, dans le monde, il y a d'un côté la relation que l'être humain entretient avec le divin, ou alors dans l'autre sens, la relation qu'entretient le divin avec son monde, et il y a également la dimension des relations humaines. Or, les êtres humains sur cette planète, ils se sont organisés en nations. D'accord ? Ouais, c'est bon ? Les êtres humains, ils ne vivent pas tout seuls. Ils vivent en tant que groupe humain. Donc, d'un côté, à Idea à Elohit, l'idéal du divin, et de l'autre côté, à Idea à Leumit. Maintenant, le Rav Kook nous explique que, au sein des nations, ces deux idéaux ne sont pas forcément corrélés. Puisque l'idéal national de chacune des nations est né sans rapport aucun avec leur relation avec le divin. Prenons l'exemple, je sais pas moi, de l'idéal germanique. Comment la nation et la mythologie germanique s'est mis en place ? Il y avait des gens qui habitaient plus ou moins au même endroit. Et donc, suivant les conditions climatiques, naturelles, les conditions du fait qu'ils vivaient au même endroit et qu'ils avaient besoin des mêmes ressources et qu'ils avaient les mêmes problèmes, eh bien, ils se sont réunis ensemble. Ils ont commencé à parler de toute façon les mêmes dialectes. Donc, ça a facilité la cohésion. Et c'est comme ça qu'est né le peuple germanique, plus tard, la nation allemande en passant par la Prusse. Je parle de l'Allemagne, ça pourrait être pareil pour la France. C'est-à-dire la France... C'est un pays qui s'est créé d'abord par des communautés humaines qui vivaient ensemble. Alors évidemment, ça ne s'appelait pas tout de suite la France, mais ça, on s'en fiche. D'accord ? Il y avait des communautés humaines qui vivaient ensemble et qui ont décidé de lier leur destin ensemble. Mais sans aucun rapport avec, par exemple, la chrétienté. C'est-à-dire que l'idéal des cultures humaines qui vivaient ensemble déjà en Gaule, il n'y avait pas de chrétienté, et pourtant, il y avait quand même des cultures humaines qui vivaient ensemble. Ok ?
L'Église.
Non, avant l'apparition de l'Église. Quand Jules César Il se bat contre Vercingétorix, il n'y a pas d'église.
Il y avait des druides.
Donc il y avait la religion celte, il y avait les druides, ce que tu veux. Mais tout ça pour vous dire que, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de religion. Je dis que le fait que les hommes se réunissent ensemble pour créer une communauté, ça n'a rien à voir avec le divin. C'est parce qu'on est au même endroit, au même moment, et on a les mêmes problèmes, donc mettons-nous ensemble. D'un autre côté, il y a une recherche de la relation avec le divin. Mais dans la mesure où les deux ne sont pas forcément ensemble, eh bien, il peut y avoir, à un moment donné de l'histoire, où la idée à Éloïte prend le pas, comme ça va être le cas, par exemple, lorsque l'Église sera très forte, où finalement elle prendra le pas sur les nations, ou alors, ça peut être la idée à Léomite, qui est très forte, et qui prend le pas sur la religion. Aujourd'hui, par exemple, en Europe occidentale, c'est la idée à Léomite qui prend le pas sur la Éloïte. On ne parle plus de religion, on ne parle plus de relation avec Dieu, c'est du domaine du privé, la laïcité, par contre, la France, elle est là. D'accord ? Dis leur à Fouk, tout ça, c'est vrai, avale pas chez nous. Parce que dans le peuple juif, la idée à Éloïte et la idée à Léomite sont nés ensemble. Quand on sort d'Égypte, eh bien, ça va de pair. La cohésion du peuple juif et la relation avec Dieu. Puisque qui nous a sortis d'Égypte ? C'est Dieu. C'est-à-dire qu'au moment où on sort d'Égypte et donc où on réalise notre cohésion nationale, on dit « Ze Eli Ve'anveu ». C'est la paracha de ce chapitre. D'accord ? Donc, les deux sont intimement liés. Dit le Rav Kook, donc on ne peut pas les séparer. La cohésion nationale du peuple juif et la relation avec Dieu ne sont pas dissociables. D'accord ? Maintenant qu'on a dit ça, on peut reprendre la phrase de cette ligne. Oui ?
La notion de nation,
oui,
la nation est arrivée tardivement.
C'est quoi tardivement ?
Il faut qu'il y ait une nation, il faut qu'il y ait une terre.
C'est intéressant ce que tu dis. C'est ce qu'on a dit chez les Goïms. Chez les Goïms, comment les nations se sont créées ? Parce qu'il y avait des gens au même endroit, donc sur une terre, et ils se sont donc reliés ensemble pour créer leur nation. Tu vois bien que chez nous, l'Onaron, puisque nous nous sommes créés en tant que nation et de cohésion nationale en Égypte. On n'a pas attendu d'être en Israël pour créer notre relation. D'accord ? Donc, je reprends la phrase. Taout gedola, c'est une grande erreur. Hi beyad otam she'einam margishim et ha'achdut ha'zgulit chez Israël. Ceux qui n'arrivent pas à comprendre l'unité profonde qui existe dans le peuple juif. Vechafetzim hem bedimyonam le'ashvot et ha'inyan ha'elohi hazeh ha'meyuchad be'ofi ha'israeli. Et ils pensent qu'ils peuvent faire corréler cette dimension divine qui existe dans le peuple juif, ils veulent comparer notre réalité à nous avec toutes les réalités des autres nations. Ça ne marche pas. Donc on veut différencier entre la nation et la religion. Il appelle ça ici Adati. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le Inyan, mais il a expliqué que la idea eloumite, la dimension du divin, va se transformer pendant l'exil en idea datite. C'est-à-dire que tu ressens moins le divin, mais tu pratiques plus les commandements. Ok ?
Il y a peut-être, c'est une question. Une dichotomie entre eux. L'intention d'Hachem et l'intention des hommes. Je parle du peuple juif. Hachem, quand il a entendu les souffrances, c'est vrai qu'on s'est axé, nous, les hommes, sur la souffrance normale. On est sensible à ça. Mais ce n'était pas le projet d'Hachem. Hachem, comment dire, c'est évident qu'il fallait qu'il arrête la souffrance des juifs. Il pouvait même sortir, c'est évident. Il ne pouvait pas sortir s'il continuait à souffrir. Donc l'idée d'Hachem, c'est deux choses. première chose, c'est de servir, faire sortir ce peuple pour faire un peuple qui accepte les commandements. Et deuxième chose, qu'ils fassent de Dieu leur Dieu. Bien. On ne parle pas de vision nationaliste à ce moment-là.
Ben si, tu l'as dit.
Rien. Ça, peut-être. Alors,
tu as dit de faire un peuple.
Peut-être que c'est la demande des hommes. Peut-être que c'est la demande de Noah, à un moment donné, le serment de Noah, bon, très bien. Où, donc, Moshe, Hachem dit, bon, je ferai de toi, je t'amènerai donc vers un territoire où tu pourras
t'établir. Ah mais non, t'établir. Je m'inscris
mais
en faux.
Mais c'est deux choses différentes.
Je m'inscris en faux.
Hein?
Je m'inscris en faux.
En faux.
En faux.
Ah bon?
Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la dimension de territoire. Lorsque Dieu dit à Moshe, va sortir, eh bien, il va sortir qui? Mon peuple. Shlach et ami ve'yavduni. C'est-à-dire que la dimension nationale du peuple juif existe. Elle est pour l'instant en Égypte, elle est soumise. Mais qui est soumis en Égypte? Est-ce que ce sont monsieur et madame juifs ou le peuple juif? Am Israël. Eh bien, la dimension nationale existe déjà. Et il n'y a pas encore de terre d'Israël. D'accord? Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que cette dichotomie dont tu parles, elle existe bel et bien chez les nations. Mais le rapport t'explique qu'elle n'existe pas dans le peuple juif. Car la dimension de la nation d'Israël et la dimension du dévoilement divin ne font qu'un. Et l'erreur, c'est de vouloir la séparer. N'oublie pas que le Rav Kook parle à une époque, le ciel, il y a 120 ans, où justement, ceux qui sont en train de recréer cette dimension de nation se détachent d'Akadosh Baruch Hu. On parle de la fin du 19e, début 20e siècle, on parle des pionniers sionistes qui remettent en concrétude la réalité de la nation, une nation en redevenir, mais d'un autre côté, ils veulent s'éloigner de la Torah et des mitzvot.
Ah, pas loin de cette vision étatique du peuple juif, lorsque Jacob était sur son territoire et Yosef était ailleurs. Où est la dimension étatique? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas,
mais,
il y avait pas d'appel, il n'y avait pas de tout.
Mais excuse-moi, si je ne m'abuse.
Hein?
Excuse-moi, mais si je ne m'abuse.
Oui.
À l'époque de Yaakov et de Yosef, il n'y a pas encore de peuple. Il y a une famille. C'est différent. Ah oui.
Le serment de Bethel, tout ça, bon.
Je ferai de toi. Comme il avait dit à Abraham, je ferai de toi un grand peuple. Mais pour l'instant, on n'y est pas. À l'époque de Yaakov et de Yosef, il s'agit d'une famille de 20 personnes. Ah, excuse-moi, on ne parle pas, il ne faut pas non plus pousser, comme on dit, mes mères dans les orties. Tu comprends? On ne parle pas encore de peuple. Le peuple va naître en Égypte. D'accord? Elle m'a la sorte.
Oui, mais âme, mais pas oum.
Âme?
Mais pas oum. Ouma.
Mais si.
On ne parle pas de Léoumi à cette époque.
Non, mais parce que le terme Léoumi n'existe pas. Goy, ça veut dire souveraineté. C'est-à-dire que là, il y a une dimension de malchoute. Donc la dimension de Goy, elle arrive dans deux secondes. Matem Tiulim Amlechet Koanim ve Goy Kadosh. Oui. Goy, c'est la souveraineté. C'est-à-dire s'il y a une dimension politique. D'accord?
Souveraineté ne peut pas être s'il n'y a pas de terre avant, s'il n'y a pas l'État, s'il n'y a pas l'endroit,
si.
Tu peux. Ah, ça existe quand même.
Mais qu'est-ce qu'on a été pendant 40 ans? Pendant 40 ans, on a été un peuple souverain,
oui.
Sans territoire, nomade.
Il y en a comme ça dans le monde, tu peux m'en citer?
Il y a eu, alors aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, parce que le nomadisme n'est plus vraiment à la mode. Mais il y a eu pendant deux siècles le royaume nabatéen entre les années moins 100 et les années 100. il y a eu le royaume des Nabatéens, qui n'avaient pas vraiment de capitale avant de s'établir à Petra et de faire de Petra leur capitale sous l'influence de l'Empire romain d'ailleurs. Il n'y avait pas vraiment de capitale. C'était un peuple qui avait des alliances politiques, qui faisait des guerres, machin, mais qui était nomade sur le chemin des marchandises, des tissus, des épices, c'est ce que tu veux.
Les peuples arabes.
Alors les peuples arabes, ils se sont vite sédentarisés. Mais effectivement, au départ, il y avait ça aussi. Donc ce que je veux te dire, c'est que dans le désert, on était déjà une souveraineté. Évidemment que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit en terre d'Israël, c'est ce qu'il va nous demander de faire. Mais je dis simplement que la dimension de nation d'Israël et la dimension du lien avec Dieu, du dévoilement divin, chez nous, ne font qu'un. Le Rav Kook te dit, moi je vois qu'à mon époque, on essaye de diviser ça, de faire la séparation de l'Église et de l'État. Loi de 1905. N'oubliez pas que la loi de 1905...
C'était la période des Lumières.
C'est le XXe siècle. Hein, la loi de 1905, il est où le Rav Kook à ce moment-là? Il est où en... Non, il vient d'arriver en Israël. Il arrive en 1904. Donc il vient d'arriver en Israël, mais il connaît très bien ce qui se passe. Il y a en Europe une volonté de séparer la dimension du dévoilement du divin avec la dimension de la nation.
C'est ce qu'ils ont fait les chrétiens, l'église séparée de l'église.
C'est ce que je suis en train de te dire. En France, il y a eu ce qu'on appelle la loi de 1905 qui sépare les églises et l'État. Dans le peuple juif, nous dit le Rav Kook, il y a des gens qui essayent de faire ça, de séparer la dimension Torah et la dimension Israël. Or, maintenant tu comprends, bien fait. Ah, ça existe encore. Il y a des gens qui pensent qu'on peut séparer la synagogue de l'État.
Oui. Ben nous.
Chas v'shalom.
Ben nous, quand toi tu étais dans un état de projet dans le ventre de ta mère, oui, si.
Non, ben, enfin, j'étais en état de projet, je pouvais rien faire, excuse-moi, c'est pas de ma faute. Am Israël, il ne fait qu'un dans sa relation avec Dieu et dans sa cohésion de peuple.
Oui, mais ce que tu dis, c'est que l'État d'Israël n'est pas un État théocratique. Benjamin Netanyahou, il n'applique pas les lois de la Torah.
Bah, d'abord, ça, c'est dommage, c'est très bien d'appliquer les lois de la Torah, mais le fait que Netanyahou il n'applique pas les lois de la Torah ne peut pas dire être les lois de la Torah.
D'Espagne,
ah bah à l'époque, il y a eu des moments où chez les nations aussi il y avait cette dimension d'unité, bien sûr. On t'a pas dit qu'il n'y avait pas. Mais bien sûr. Mais, tu cherches Louis XIV. Viens, on remonte un peu plus loin. Alexandre, c'était ça aussi. Bon, c'était plus facile parce qu'il mettait toutes les religions ensemble, donc c'était facile de réunir. Mais cette idée qu'on peut réunir ces deux dimensions, bien sûr qu'elle existait aussi chez les Goïms. On te dit juste que dans le peuple juif, c'est impossible de diviser. C'est impossible. On en a eu une preuve dramatique, Shabbat dernier. Ah. Évidemment. Allez, on vient massacrer des juifs à la synagogue pour avoir un combat politique. Alors vous comprenez bien que les terroristes qui ont fait ça, c'est pour des raisons quoi ? Israël. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les juifs, mais ils n'aiment surtout pas les juifs quand il y a l'État d'Israël. Ça leur pose un vrai problème.
Ils réunissent tout.
Donc, c'est malheureux d'avoir à voir ce genre de... C'est terrible, c'est dramatique. Je dis simplement que c'est une nouvelle fois une preuve que chez nous, la dimension de la nation et de la relation à Dieu ne font qu'un. Tu peux essayer de les séparer. Ça fait 100 ans qu'il y a certains qui essayent de les séparer. Ça ne marche pas. Ça Agave, pas la peine d'aller chercher aussi très loin. Hein. Il y a un monsieur qui s'appelait Benjamin Zev Herzl, qui n'était pas très religieux, si je ne me trompe pas, Et pourtant, qui a quand même dit cette phrase, bien qu'il de lui-même ne l'a pas mis en pratique. Il a dit, le retour au sionisme est un retour au judaïsme, avant d'être un retour à notre terre.
Avant
d'être un retour. D'abord et avant tout, le sionisme, c'est Torah, c'est Yahadut. Vous allez mettre. Bon, c'est dommage que lui, il n'a pas été jusqu'au bout du raisonnement, parce qu'il aurait dû faire Tchouva.
Mais il est mort à 44 ans.
C'est dommage. Qui sait ce qu'il serait devenu plus tard? Peut-être qu'il serait devenu Arav, Benjamin Zeb, j'en sais rien. La déclaration d'indépendance en 1948 a presque dissocié les deux. Car ça a été le dernier grand débat. Tu sais que la décision finale de déclarer l'indépendance a été prise le 12 mai. Et la déclaration d'indépendance a eu lieu le 14 mai. Pendant ces 48 heures, il y a eu un combat incessant entre une dizaine de personnes pour avoir le texte de la vie. Mais la dernière question est sur le terme. Est-ce qu'on met le nom de Dieu dans la déclaration?
Il est dans le choix du nom de l'État, Israël.
Ouais, non, ça c'est trop... ça, c'est une réponse de religieuse.
Matzion.
Ils ont un autre mot à la place de Kadosh Baruch Hu. Je crois que c'est
Tzur. Exactement. Ils sont arrivés grâce au Rav Herzog. Le Rav Herzog qui va devenir, juste après, le premier grand rabbin d'Israël, Ashkenaz. Le Rav Herzog, il dit, on n'a qu'à mettre un nom de Dieu que les pas religieux ne connaissent pas. Az Tzur Israël, c'est un des noms de Dieu qui est marqué dans le Tanakh. Mais il n'est pas très usité, il n'était surtout pas utilisé par les religieux. Donc, tu vois David Ben-Gurion terminer la déclaration d'indépendance en disant Bebitachon Betzor Israël. Donc, on n'a pas différencié les deux.
Je voulais savoir si pour toi la création des Israël était mise en œuvre à la sortie
d'Égypte. Évidemment. C'est évident. C'est même pas une question. Est-ce que la création de l'État d'Israël était un miracle plus grand que la sortie d'Égypte? C'est évident. D'abord, c'est évident au niveau mathématique. La sortie d'Égypte, on est sorti après 200 ans d'esclavage et de chiaboud, 200 ans d'exil, on est sorti d'un pays. Pour nous, on est sorti après 2000 ans d'exil. 2000, 1, 100. D'accord, sans la sortie d'Égypte, il n'y a pas eu la création de l'État d'Israël. Je suis tout à fait d'accord. Mais, si on compare les deux, t'as que notre réalité, elle est beaucoup plus grande que celle de nos ancêtres. C'est pas chou que le cas. Et après, tu vas me dire, pourtant, l'ouverture de la mer Rouge, truc de fou, les 10 plaies, folie. Et c'est pour ça que, à chaque fois, je vous dis, mais vous ne voulez pas m'écouter, je vous dis qu'il faut que vous achetiez le livre du Rav Shmuel Eliyahu qui s'appelle Hanevu'a et que vous le lisiez, oui, il est en hébreu, et alors, que vous le lisiez pour comprendre tous les miracles et les prophéties qui se sont réalisées dans les 100 dernières années. Parce que l'argument qu'on te donne, c'est non, mais à la sortie d'Égypte, il y a eu des miracles de folie. Mais il y a eu des miracles extraordinaires dans notre génération qui en plus sont la réalisation des névoites noir sur blanc. Il faut juste en être conscient. Dans toute bonne librairie.
Comment s'appelle
aussi? Je pense Stematsky, tu peux trouver. Sommet Sfarim, tu peux trouver. Dabrichir, tu peux trouver. C'est un gros bouquin. Un gros livre bleu. À névoite, très bien. Ok? J'ai enseigné ce livre-là à la Midrashet Manitou il y a deux ans. Ouais, deux ans. Tom, Bekitsour, donc voilà, donc on ne peut pas différencier ces deux dimensions.
Je pense que c'est
quoi? C'est page même, hey. Ok? Ben, c'est l'air. Donc on a fini la première phrase qui comportait. Que
la création d'Israël a été
Ah, Pourquoi il a fallu que la création de l'État d'Israël...
On avait répondu à ça.
Ah, on a souvent répondu à ça. Pourquoi la création de l'État d'Israël passe par des gens qui ont rejeté la Torah?
Il
n'y
a que qui pouvait le faire.
Il ne faut pas avoir peur des mots, les amis. Il ne faut pas avoir peur des mots, ils ont rejeté la Torah. Et nous, mais non seulement ils n'appliquaient pas, mais ils ne voulaient pas, ils rejetaient. Ça va, on ne va pas avoir peur de la réalité. David Ben-Gurion, il a rejeté la Torah. C'est pas... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qu'il a fait, mais concrètement... Il était et il y a été pour justement essayer de séparer. Chazonish, tes mecs à toi, c'est ton monde, et Allah, je vous laisse faire Torato Umanuto, restez dans vos yeshivotes et venez pas nous embêter. Donc justement, c'était l'idée de se séparer. Non, donc c'est pas. Faut pas avoir peur de la réalité. Maintenant, Machekel, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a pas choisi des personnes avec des grandes barbes, des pailles, c'est ça? Franchement. Ça aurait été plus sympa.
Qui c'est qui allait retourner la terre?
Eh bien, les mecs avec les grandes barbes et les paillettes. D'ailleurs...
Mais j'étais contre les mecs avec la barbe.
Mechas v'shalom.
Moi, j'ai lu des articles où les rabbins américains, ils étaient contre la
déclaration. Les rabbins américains? C'est qui les arabes? C'est qui les rabbins américains? Tu me parles des Gdolim de la Torah? Ah, c'est le Gaon de Vilna. Il y a deux rabbins et demi. Les premiers pionniers, les premiers qui vont recréer des villages, qui vont retourner la terre, c'est tous des mecs qui ont des barbes jusque-là. La première alia de 1882, c'est que des religieux. Et les gens qui viennent avant la première alia, les élèves du Gaon de Vilna, les élèves du Baal Shem Tov, c'est tous des religieux.
Les sionistes russes qui ont refusé l'Ouganda.
Mais c'est beaucoup plus tard, les amis. Il faut absolument que vous retrouviez sur la frise.
Il y a combien de tentatives de gens, de rabbanim, des gdolim, qui sont venus en Israël il y a 300, 400 ans, qui sont pas pu, ils n'ont pas pu rester là.
Mais moi, je ne te parle pas. Là, lui, il va trop loin, trop près de nous. Toi, tu vas trop loin de nous. Moi, je parle de ce qu'on va appeler Chovevei Tzion. Je ne parle pas d'il y a 300 ans où il y a Rabbi Nachman de Breslav qui est venu et il est reparti. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un truc qui commence quelque chose pour de vrai. Je parle de Maskeret Batia. Je parle des premiers par le baron de Rothschild. Qui y habite? C'est que des religieux. La personne qui met le pied à l'étrier de tout le monde, c'est le Rav Shmuel Mohaliver, qui est considéré à l'époque comme le plus grand des rabbins du monde juif. Je parle du Rav Kalischer, du Rav Gutmacher, du Rav Chayal Kalai, du Natsiv de Volozhin. Je parle du Rav Kouk.
Donc, tu as encore plus grave que le premier président, ça n'aurait pas dû être Ben-Gurion, mais un rabbin.
D'ailleurs, je ne sais pas comment répondre à ton intervention, parce que le premier président n'était pas David Ben-Gurion. Je suis désolé. Quoi qu'il en soit, les premiers qui ont fait des villages, ils avaient des barbes jusque par terre. Maintenant, comment ça se fait que ce n'est pas eux qui ont finalement créé l'État d'Israël? Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait Bekdusha Atsuma. Messirut Nefesh, tu n'as même pas idée. Mais c'est ça le problème. Le Rav Kouk, on va lui demander de planter un arbre dans le nouveau village de Magdiel, qui va devenir Rehovot, mais l'homme chaîne est Magdiel. Tu sais combien de temps il met pour planter un arbre? Il met entre 45 minutes et une heure pour planter un arbre. On lui donne une pelle pour enlever la terre et machin. Il refuse la pelle. Il y va avec ses mains. Et à chaque fois qu'il met la main dans la sol, il fait les chaînes Mikhout, Kouchagorifou, Shrinte. Alors, je t'assure que cet arbre-là, il est fantastique. Mais si tu mets une heure par arbre, à coup de Kavanot, des Mekoubalim, tu ne crées pas de route. C'est pas du tout anecdotique. Les religieux, ils ont essayé de faire. Mais ils n'avaient pas du tout la capacité de faire. Ils ne savaient pas. ils étaient en plein de volonté. Qui ont commencé à le faire. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est les pas religieux qui ont fait ? Parce qu'ils savaient le faire. C'est pas shoot. Donc Akadosh Baruch Hu, il a envoyé qui est capable de le faire. Comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, tout le monde le connaît, Rosh HaYeshiva, pourquoi il a choisi un mec qui a grandi dans la maison de Pharaon, qui parle égyptien, qui a fait Sciences Po Alexandrie ? Bah, Moshe Yoter Tov mais Aaron, ben oui, parce qu'il s'agit de créer une nation. Donc il faut quelqu'un qui sait comment on gère une nation.
C'est comme Akadosh Baruch Hu, il avait choisi Moshe pour justement être le moteur au niveau concret. On a fait la même chose ici. Akadosh Baruch Hu,
il a choisi
la même chose. D'accord. Il a choisi Herzl. Alors que ça paraissait complètement
impossible avec Herzl.
Du coup, Moshe
est devenu lui-même un grand rabbin. Ah, bah, c'est pour ça que je te dis. Chez Moshe, après, il est devenu aussi celui qui nous a donné la Torah. C'est l'idéal, on a dit. C'est uni. C'est ça l'idéal. Vadaï. L'idéal, ça aurait été que Herzl, il devienne un rabbin Herzl. Bah, il n'est pas devenu. Toi, nous, alors quand on arrête.
Il est mort,
je ne sais pas s'il est mort. Peut-être qu'il n'aurait pas fait Tchouva de toute façon, j'en sais rien. Mais je ne peux pas parler à sa place et je ne peux pas refaire l'histoire. Donc comme Herzl, c'est pas lui qui a porté la Torah, alors Akadosh Baruch Hu a envoyé le Rav Kook avec lui.
Vas-y.
Donc, deuxième phrase.
Deuxième phrase.
À la septième ligne. Omnam. Keshem shetoim umitametsim laafrid et achalakim abilti mitralkim alalu. De la même façon qu'ils essayent donc de séparer ces deux dimensions qui ne sont pas séparables. ככה יותר הם טועים אותם שהם סבורים שאפשר הדבר שהחילוק והפירוד יעלה בידם של כל המתאמצים להפריד את התיומת. ומזה בא שהם לוחמים נגד מחזיקי חלק אחד מהחטיבה הישראלית בחמה שחופה. על היפרדתם המבהלת מבלי לשים על לב איך צריכה המלחמה הזאת להתכונן. De la même façon qu'il y en a qui se trompent en pensant qu'ils peuvent séparer, de qui ils parlent. Eh bien, il y en a qui se trompent tout autant en pensant qu'ils peuvent se battre contre eux et de facto, de qui ils parlent. Ben, il parle de l'autre côté, du Rav Sonnenfeld. Il dit, ah, des gens, c'est les gens de l'Organisation Sioniste Mondiale, ils pensent qu'ils peuvent se séparer de la Torah et de dire on va se séparer, de toute façon c'est deux choses différentes. Ils se trompent. Mais il y en a d'autres qui se trompent. C'est les élèves du Rav Sonnenfeld qui vont devenir Appel à Gaïrou Chalmi, ou alors sous son nom plus connu, Netore Karta, qui disent on va se battre complètement contre tout ce qui peut représenter une nation. D'abord, les Netore Karta, ils ne sont pas si peu nombreux. Les mecs qui vont en Iran, ils sont peu nombreux. C'est-à-dire. Mais il faut savoir que Pelagia Yerushalmi, du Rav, et leur idée, elle est très clairement établie. Ils se battent sur. C'est-à-dire. Ça veut dire quoi, Arabien ?
Les gardiens de la ville.
C'est nous les gardiens.
C'est pas le Rafouet d'Allemagne qui le
fait. Aujourd'hui. C'est ce qui est très bizarre parce que son père, Shlomo Zalman de Urbach, il était tellement pas comme ça. Mais bon, voilà ça. Bekito, il est. אם היה אפשר להפריד באמת את התכנים הרוחניים שבכנסת ישראל, אלא שהדבר מנוע מפני איזה חוק תורי. תגיד, on aurait pu imaginer qu'on peut séparer. Avant, on peut pas. Tu sais pourquoi? C'est marqué dans la Torah. Yesh chok tori. C'est la Torah. Tu peux pas. Az hayta tzricha milchama liyot mechavenet neged hamachzikim bechelek nifrad miyuchad. Si tu vas séparer la nation de la nation avec.
Assimile-toi.
Oui.
Ceux qui sont assimilés.
Ah, ceux qui sont assimilés, pas de problème.
Oui, mais les gens qui composent ce peuple. Des
idées.
Même vis-à-vis de la tombe.
Il y a aussi, il y a des gens qui vont s'opposer. Il y aura qui t'explique, alors, tu ne seras pas.
C'est-à-dire
que les juifs, c'est des... Ce que le Rav Kook te dit, c'est perdre son temps. C'est de l'énergie perdue pour rien. Tu n'arriveras pas à séparer Am Israël de la Torah. Tu n'y arriveras pas. Prends un monsieur avec qui le Rav Kook parle toutes les semaines. Qui s'appelle, ils habitent dans la même rue. Hein, qui s'appelle Eliezer Ben Yehuda, qui va faire de la résurrection de la langue hébraïque et de la nation laïque d'Israël son combat de sa vie. Seulement, il a un grand problème, Eliezer Ben Yehuda, c'est que la langue qui va ressusciter, c'est laquelle? Leshon HaKodesh. Et la terre sur laquelle il veut ressusciter la nation laïque d'Israël, c'est laquelle? Eretz HaKodesh. C'est-à-dire que, de facto, il n'a pas le choix. Il va se passer, à cause de lui, l'inverse qui se passe dans l'Europe de son époque, qui veut aller vers la séparation de l'Église et de l'État. Comment ils font en Europe? Eh bien, ils arrêtent de parler latin et ils reparlent les langues de la nation. Seulement, Eliezer Ben Yehuda, il fait l'inverse. Il fait arrêter de parler yiddish et il ramène à la langue de la Torah. Hier, j'étais en France et j'étais à un grand congrès, un grand kénès comme ça pour les profs de Kodesh en France. Et j'ai expliqué qu'il fallait absolument, il n'y a pas de raison que ça marche dans les autres pays, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en Israël, en France, c'est ça, qu'il fallait absolument faire une révolution et commencer à enseigner le Kodesh en hébreu. Et quelqu'un me dit, une prof, a dit, non mais c'est beau dans l'idée, mais enfin de toute façon, il ne faut pas mélanger. Pas mélanger la Torah et l'hébreu, c'est deux choses différentes. Je lui ai dit, non. On a étudié le Rambam, Be'ilchot Talmud Torah. Il nous dit le Rambam, Be'ilchot Talmud Torah, que le daber ivrit, c'est mitzvah d'Oraïta, c'est mitzvah de Talmud Torah. Quand tu vas à l'Ulpan, tu fais une mitzvah. Parce qu'apprendre l'hébreu, c'est Hersher Mitzvah. Yeshra Mitzvah l'ilmot Torah. Or, l'ilmot Torah, ça se fait en hébreu. Ah. Moi, je suis là, je vous traduis. Mais c'est sûr que ce n'est pas l'idéal.
Moi, c'est plus facile pour eux d'apprendre.
Mais c'est bien, je ne dis pas qu'il faut. Ça demande une vraie prise de conscience, si tu veux. Mais ce que je veux te dire, c'est que. Et là, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit non. Peut-être le Rambam, il a dit ça à son époque, mais l'hébreu moderne, c'est certainement pas ça dont on parle. Dira Boïsaï, l'hébreu moderne, Makara, c'est quoi la différence entre l'hébreu moderne et l'hébreu du Rambam? Il y a deux mots et demi qui ont changé. Il y a un accord qui n'est pas fait de la même façon, nous Bémet. Tu vas me dire qu'un mec qui parle en hébreu moderne, un israélien aujourd'hui, il ne comprendra pas ce qui a marqué dans Mishneh Torah? Il comprendra. Et un mec de l'époque du Rambam qui parle l'hébreu, le Rambam, tu le mets aujourd'hui à Tel Aviv, il ne comprendra pas? Ah voilà, il y a des mots qu'il ne comprendra pas. Télévisia. Nous, je croyais. À l'époque du Rambam, à l'époque de la Mishnah, tu prends un Tana. Il ne comprendra pas ce qu'il a marqué dans le Tana. Bien sûr qu'il comprend. Mais tu prends David Amelet. Et tu lui fais lire la Mishnah. Maseret Sanhedrin. Il ne comprend même pas le titre. Maseret Sanhedrin. Sanhedrin, c'est un mot en grec. David, il ne comprend pas le grec. Ah, il comprend même pas le titre. C'est-à-dire, l'hébreu moderne. Je vois pas le truc. Hein? C'est? Mais il sait lire l'heure. Et elle était bien amenée. Elle était très bien amenée. C'est un remède. Tant, alors, vu qu'elle était tellement bien amenée, je suis obligé d'arrêter là-dessus. C'est bien. Alors, on continuera la prochaine fois.